originale avec Fanny Bruy. Bonjour Fanny. Monsieur Guillermo Huys, bonjour Guillermo.
Bonjour.
Albert Aldou, bonjour Albert.
Bonjour.
Daniel Morin.
Yeah, bonjour.
Et Monsieur Tanguy Pastureau sera là tout à l'heure, notre invité étant Robin Renucci. Déjà un petit tour des popotes pour savoir comment vous allez. Je rappelle que nous sommes toujours chacun chez nous, chacun chez soi, sauf Guillermo qui est toujours chez l'habitant. C'est-à-dire que, en fait, t'es jamais au même endroit. C'est ça ce que j'adore. C'est-à-dire que on est confiné. Enfin, entre guillemets, on joue la distance sociale. Chacun reste à la maison. Mais à l'image, t'es jamais au même endroit. C'est un truc de dingue.
Mais c'est parce qu'en fait, c'est parce que j'ai pas de bon wifi chez moi et ça commence à me frustrer vraiment très fort de toujours perdre au blind test parce que je suis en retard. Et donc je cherche du bon wifi. Je vais là où le wifi est le plus correct possible pour pouvoir essayer de gagner.
Viens chez moi, j'ai du bon wifi. Et toutes les nanas qui tu dis ça te croient. C'est-à-dire systématiquement, elles te disent oui, oui, tu peux rester ce soir, j'ai du bon wifi.
Il est fort,
moi,
je vous promets,
je suis en pleine campagne, au milieu de moutons, de chèvres, de poules, etc. Donc de nanas, il n'est pas question, mais il y a du wifi.
D'accord, bah, j'ai très peur alors pour la manière dont tu te contentes, c'est ça. Justement, l'amour, Daniel, c'est beau, ça rend audacieux, mais malheureusement, on met toujours des bâtons dans les roues de l'amour.
Ah, les paroles de la sagesse envahissent ta bouche, petit homme reflet d'Orient. Comme beaucoup, l'amour me rend joyeux, l'amour me rend guilleret, l'amour me rend hardi. L'autre jour, il faisait beau, je me baladais dans un square parisien avec deux copines, Anne Hidalgo et Valérie Pécresse. Je leur dis « Hey, ça vous dit les filles qu'on fasse un câlin sur l'herbe là ?» Anne me dit « Ok, mais pas à plus de 30 km/h. Ok, super. Et toi Valérie ?» Et là, la présidente de la région Île-de-France me regarde comme si j'avais dit une horreur et elle me répond « Non mais ça va pas à la tête. Et l'article 222, paragraphe 32 du code pénal, t'en fais quoi ?» Il dit quoi, l'article 222, paragraphe 32 ? Il dit que l'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible au regard du public est punie d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Quoi ? C'est interdit de faire l'amour en public ? Répondis-je outré en regardant Anne Hidalgo qui me dit « Je savais pas !» Mais depuis quand c'est interdit ? Avant-hier encore, en toute innocence, je faisais l'amour avec Guillermo Guiz et Albert Algou au but de Chaumont. Nagui voulait des photos de la bande dans un cadre sympa et bucolique. Mais c'est complètement con d'interdire ça ! Surtout que je sais que les gens aiment me regarder faire. Souvent, quand j'ai fini, il y a des badauds qui me demandent des trucs. Où est-ce que j'ai appris mes techniques ? Est-ce que je suis professionnel ? Il y a même un flic, une fois, qui m'a vu, qui m'a laissé faire, et qui, à la fin, m'a demandé de venir chez lui le lendemain pour l'anniversaire de sa femme. Il m'a jamais dit « Eh oh, l'article 222, paragraphe 32 du code pénal !» Non, jamais. Alors, moi, je croyais qu'on voulait une France du partage, une France du vivre ensemble. Tu parles ! Vivement que Jean-Marie Bigard soit président. Ça va changer tout ça, vous verrez, ça va changer.
Merci Daniel Morin. Il y avait un nombre de personnages incroyables dans ta vie, c'est fou. T'as une capacité à faire un truc de malade. La capacité à faire toutes les voix. Très belle imitation de Valérie Pécresse, j'ai adoré. Alors, aujourd'hui nous recevons Robin Renucci et alors Robin Renucci nous le recevons parce que il sera dans au Théâtre de la Ville déjà pour l'urgence des alliances. Il sera également. Est-ce que vous avez suivi un peu son actualité?
Ouais, total.
Alors vas-y, c'est quoi la suite?
Alors il va parler culture, il va parler médias, il va parler partage, il va parler.
Et il est directeur des Tréteaux de France, Robin Renucci. Il est membre du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle. Bref, on va parler tout ça avec lui. Quel est le blind test, à votre avis, que je suis allé vous chercher, histoire de vous pourrir votre week-end ?
Les chansons où dedans il y a Renucci.
Eh bien oui. Non, oui. Ni non, Robin, ni Renucci. Non, plus simple.
Un truc sur les bois, genre vous avez fait un jeu de mots qui vous a fait plaisir ? Romain les bois, puis vous avez dit un truc sur les bois ?
Non. Non. J'aime pas du tout la vanne du jeu de mots qui me fait plaisir, Guillermo.
Du mépris
dans le jugement de la vanne, j'ai pas du tout aimé ça.
C'est pourtant la vérité.
Non, c'est pas la vérité, Albert. Non, non. Alors écoutez, vous savez quoi, je ne vous dis pas le sujet du blind test.
Ah bah si, attends, déjà qu'on rame. Ah bah
parce alors, non, t'as pas trouvé toi-même.
Parce que Fanny est trop efficace, justement, et je voudrais pas que là, d'un coup, elle... Elle brille de tous ces... De toi, essayez de reconnaître et faites-moi un signe de la main, comme ça, il n'y a pas de question de décalage de voix ou autre, dès que vous avez reconnu. Ouais, Guillermo.
Daniel.
Non, c'est Guillermo.
Ah, ah.
Oui, oui.
Non, c'est pas...
Non, c'est... Bah, tu vois, Daniel, ça sert à quelque chose.
Ah non.
Non, Daniel.
Daniel, vas-y, Daniel.
Toc, toc.
Oui.
Ah ben oui, c'est ça, toc toc. C'est ça que je voulais dire.
Un petit conseil à tout le monde, même si Guillermo lève la main en premier, levez la main après, il y a toujours un bug quand il faut dire le truc.
Non, mais Nagui.
Oui.
Est-ce qu'on a droit à un demi-point si on, si
non,
moi j'ai fait AA et c'est toc toc, ça ressemble un peu à toc toc AA.
Bien sûr. Bien sûr. Et tu as raison, il n'y aura donc rien pour toi. Est-ce que.
Et si on dit pouet pouet aussi, tu veux des points, non?
Est-ce que vous avez compris quel était le sujet du blind test ou pas?
Ah non.
Toujours pas? Talk talk, non, ça vous met pas sur la piste. Ok,
ah,
je continue.
Les initiales, RR.
Joli, joli.
AA, voilà. Albert Algou.
Double initiale, exactement. Donc Talk Talk était la première bonne réponse donnée par Daniel. Et maintenant, t'as le droit de jouer, Fanny. Hein.
Daniel.
Duran Duran.
Ouais, Daniel. Mais...
Piazza Dora et Jermaine Jackson.
Bah, c'est surtout Jermaine Jackson, oui, double J, ouais. Bien joué.
Avec le plus beau clip du monde.
Ah bon, c'est quoi?
C'est un truc futuriste où ils sont habillés en blanc, où ils sont. Enfin, c'est n'importe quoi.
C'est ridicule, donc tu veux dire, c'est ça qu'en fait.
Oui, mais j'apprécie.
Attention.
Daniel!
Daniel, mais tu écrases tout le monde.
Attends,
je veux juste savoir si Fanny est toujours avec nous ou pas. Fanny, tu
Duran, je suis là, mais hein. C'est juste que je suis tellement éblouie par votre savoir que j'ai du mal à me reprendre.
Allez, question subsidiaire, Fanny. C'était la musique de quel film?
Daniel.
Non, j'ai dit Fanny. Fanny.
Non, mais
James Bond.
Je trouve ça très fourbe de me poser des questions à moi spécifiquement, parce qu'autant les autres, je peux faire genre ouais, ça a coupé et tout. Là, les gens savent que je suis là, que c'est vraiment juste que je suis pas cultivé.
Mais fourbe est mon troisième prénom. Essayez de retrouver. Alors là, ça va être plus dur.
Ici, moi.
Ouais, Guillermo. T'as levé la main, Guillermo?
Tanita Tikaram.
Joli.
Pou, 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 pou. Respect, Guillermo.
Est-ce qu'on peut jouer par pays?
Je serais toi, je jouerais par continent parce qu'il y a plus de chances de trouver quand même. Tanita Tikaram, bien
t'as
joué.
Tout a sorti ça, wow.
Mais c'est vachement bien, Tanita Tikaram, j'adore. Mais ouais, alors, de le retrouver.
Sans
ouais,
souvenir.
Retrouver. C'est ça. C'est ça. Mais c'est là où Guillermo est remarquable, c'est-à-dire quand c'est facile, il ne trouve pas, quand c'est introuvable, il trouve. En même temps,
ça fait 3 mois qu'il est couché, hein. Il est
c'est vrai.
Taquet.
C'est vrai. Alors là, c'est. Ah, je ne sais pas comment vous aider. C'est un. Ah non, je dis rien. C'est un poète. Allez.
Ah oui, c'est. Ah oui.
Daniel?
Ah mais oui, putain.
Ah mais oui, bien sûr.
Daniel.
Oui, Boris Vian. Non, c'est pas Boris Vian.
C'est Le Déserteur par Mouloudji.
Et Mouloudji, son prénom étant Marcel, ça fait, oui, double initiale, bien joué.
C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, les guerres sont
mais Daniel
des
a bien connu Mouloudji en même temps, donc c'est pas...
Respecté.
C'est mon ex.
Du jeu, quoi. Respecté.
Respect pour Mouloudji.
Attention, là, je pense qu'une différence peut se faire. Yeah.
Ah merde.
Double initial. Guillermo.
Daniel.
Non, Guillermo. Daniel.
Oui.
Ouais, Beastie Boys.
Ah merde. You gotta fight for your right to
party. Oui, absolument, les Beastie
Bien
Boys.
Joué, Guillermo.
Avec Fight for Your Right. 4 bonnes réponses pour Daniel, 2 pour Guillermo. Fanny et Albert sont avec nous, je rassure leur famille, leurs proches, leurs amis. Tout va se jouer avec la dernière chanson qui peut rapporter 6 points. Attention. Double initial.
Daniel.
Oh bah ouais, trop facile, la voix est passée, salaud. Ouais.
Mireille Mathieu. Oui. La paloma, Dieu.
Adieu, c'est toi que j'aime. Albert, je l'avais placé à la fin pour toi, pour que tu aies les 6 points, pour que tu ramasses tout, franchement. Albert.
Bah, écoute, j'ai prononcé le nom de Mireille Mathieu avant tout le monde.
Oui,
dans une autre
vie.
Daniel a levé la main avant moi. Donc 3 points chacun.
C'est moche. Non, il y a pas. Non. Le vainqueur, Monsieur Daniel Morin.
Yeah.
Y a pas de débat. Y a pas photo.
Mais j'étais impressionné par Guillermo quand même.
Ce qu'il avait
trouvé. Ouais.
Bravo. Déjà, c'est une de mes chansons préférées.
Bluffant. Mais ouais. Moi, j'avoue que de toutes les chansons là qu'on a écoutées, j'ai un petit faible quand même pour Talk. Vous êtes passé au début à côté, mais quand même, c'était un énorme tube. Alors, vraiment, sincèrement, Fanny, tu ne connais rien de tout ça?
Mais je saurais pas dire les noms. Pour moi, c'est des.
Ah, d'accord.
Commencé depuis hier. J'écoute des chansons années 80 pour essayer de suivre un peu.
C'est bien. Mais c'est la fin de la saison. Il reste plus qu'une semaine. Tu vas être au taquet la semaine prochaine.
C'est pour tout donner en fait.
En juillet, ça va être une chose.
Robin Renucci, donc avec ses doubles initiales magiques, sera notre invité tout à l'heure. À suivre également l'humeur de Fanny Ruet. Mais d'abord musique avec
la bande originale Nagui. Sur France Inter.
Les Jam, Town Called Malice, c'est la bande originale sur Inter. Malice, c'était les Jam sur Inter dans la bande originale. Et avant d'accueillir Robin Renucci, merci d'accueillir Fanny Ruet.
Salut les vieux.
Salut la gamine.
Il faut que je vous parle d'une mascarade qui dure depuis bien trop longtemps et je ne parle pas de ma présence dans cette émission. Avant-hier soir, je passe la soirée chez une amie et à la fin, je me mets en route pour rentrer chez moi. Il est genre minuit passé, je dois marcher en pleine nuit, seule, avec mon physique de victime et ma tête à claque. Donc je m'attends à ce qu'elle me dise « Bah, tu m'envoies un message quand t'es rentrée chez toi, comme ça, ça me rassure et tout. » Eh ben non, elle l'a pas fait. Donc, on pourrait se dire grosse connasse, énorme connasse, qui s'en fout de moi et qui ne me fréquente que pour avoir le numéro de Guillermo Guise comme toutes les autres. Mais non, en fait, parce que c'est spécifiquement parce que cette amie est une personne fantastique qu'elle ne m'a pas demandé de lui donner des nouvelles parce que ce fameux « tu me dis quand t'es rentré », Alors déjà ouais. titre, et en plus, c'est vraiment une mauvaise idée, parce qu'il n'y a que dans un seul cas où ça se passe bien, c'est j'arrive chez moi, je lui envoie un message, je suis rentrée, bisous, elle me répond, super, dors bien, je t'adore Fanny, t'es vraiment la plus drôle, en plus t'es trop belle, j'ai envie de toi. Voilà, message classique. Là, tout est super,
mais
dans
pas.
Tous les autres scénarios, dire aux gens, dis-moi quand t'es rentrée, ça sert juste à se donner bonne conscience, voire dans certains cas, à empirer la situation. Je propose qu'on analyse les différents scénarios possibles.
Allons-y.
Premier, je rentre chez moi sans problème, je lui envoie un message comme promis, disons que je suis bien arrivée, mais elle ne me répond pas parce qu'à la seconde où j'ai quitté son appartement, elle s'est endormie comme une énorme merde. Je réalise donc qu'elle s'en fout de moi, donc je lui en veux, je la déteste parce qu'elle en a rien à foutre de ma gueule, cette conne, ce qui me laisse des séquelles psychologiques indélébiles et me rend incapable d'accorder ma conscience jusqu'à la fin de ma vie, mon ouais. existence est ruinée. Seconde hypothèse, je rentre chez moi sans problème, mais j'oublie de lui envoyer un message parce que j'ai une mauvaise mémoire, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vais oublier à la fin de la chronique de rappeler que je reprends Inch'Allah, mon spectacle à Paris, le 15 septembre à la Nouvelle Scène. Donc, j'oublie de lui envoyer des nouvelles. Résultat, elle est en panique. Elle pense qu'il m'est arrivé quelque chose. Elle ne sait pas dormir. Vers 4h du matin, elle finit par faire à pied le chemin jusqu'à chez moi pour voir si elle me trouve, titubant dans une rigole. Elle finit par arriver jusqu'à mon appartement et réalise que je suis bien au chaud dans mon lit. Ça la met hyper vénère. Elle m'engueule, puis elle repart chez elle seule dans la nuit. Il est quand même 4h30 du matin, donc moi ça m'inquiète un peu qu'elle rentre seule. Donc je lui dis, bah, tu me dis quand t'es rentrée. Elle me met une droite, commotion cérébrale. Et là, c'était les cas dans lesquels ça se passe bien. Parce qu'il existe aussi pas mal d'hypothèses dans lesquelles il m'arrive en effet quelque chose pendant le trajet du retour. C'est là que ce « dis-moi quand t'es bien rentrée » atteint le paroxysme de l'inutilité. Parce qu'en vrai, s'il m'arrive quelque chose, qu'est-ce que tu vas faire ? Troisième hypothèse donc, je me fais agresser sur le chemin par le gang du quartier, mené par un sombre voyou du nom de Manuel Dorin. Mon ami, n'ayant pas de mes nouvelles, se dit, ben, comme d'habitude, elle a oublié de m'envoyer un message. Donc elle s'endort sur ses deux oreilles. Le lendemain, je suis hyper en colère contre elle, parce qu'en plus de m'être fait agresser, ben, je me sens délaissée, que personne ne s'inquiète pour moi et tout. Donc la solitude et les remises en question s'ajoutent au traumatisme de l'agression. Donc ce joyeux mélange peut aller jusqu'à mener la dépression, voire le suicide. Quatrième hypothèse, wow. ça se passe mal sur le chemin du retour. Je me fais agresser par le gang de Manuel Dorin. Voyant que je ne donne pas de nouvelles, elle finit par faire à pied le chemin jusqu'à chez moi et se fait agresser par le même gang. Donc deux victimes plutôt qu'une. Nos corps se retrouvent dépecés et Manuel Dorin vend nos organes. Sauf que 4 reins à vendre en une seule nuit, c'est beaucoup quand même. Vu que l'offre augmente, le prix du rein chute, ce qui provoque un énorme déséquilibre dans le milieu des organes de contrebande. Certains trafiquants se retrouvent sans emploi, s'inscrivent chez Pôle emploi, augmentation du taux de chômage, énorme trou dans les caisses de l'État, crise économique nationale et puis mondiale, le fossé des inégalités. L'égalité se creuse encore davantage et faute de nourriture et de soins, et bien des millions de gens meurent. Tout ça parce qu'elle voulait ce foutu message bien arrivé. Donc non, ça ne va pas. Ne faites pas ça. Ne soyez pas égoïste. Ne demandez pas de nouvelles de vos amis quand ils rentrent tard. Dites-leur juste, ne me préviens pas quand tu rentres, mais si tu disparais en chemin, je te promets que je participerai à la battue, parce que c'est ça, l'amitié.
Bravo. Bravo, Fanny. Ah, c'est beau l'effet papillon. C'est beau l'effet papillon. J'ai beaucoup aimé le titre qui s'est glissé, plus surpris par le bruitage. Nous avons Robin Renucci qui est avec nous. Bonjour Robin et merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment allez-vous ?
Bonjour Nagui, merci de me recevoir. Je vais très bien. Je vais très bien, somme toute, disons.
Voilà, somme toute. Et c'est justement la question que nous posons tous les matins à nos invités autour de ces 55 jours de ces 2 mois de confinement. Comment vous avez vécu, vous, le confinement pendant ces 2 mois ?
Alors j'étais à Paris, j'habite à Paris et je suis resté puisque je dirige un centre dramatique, c'est-à-dire que je suis responsable de la vie quotidienne salariale de salariés d'employés qui travaillent avec moi, de toute une équipe. Donc je voulais être près d'elle, cette équipe qui elle était plutôt en télétravail, ce qui fait que j'ai passé également beaucoup de temps comme tout le monde qui était dans cette situation sur un ordinateur, mais aussi à me soucier également comme tout le monde de la vie de ceux qui souffraient, de ceux qui étaient en train de sauver les vies en même temps et qui réparaient autant qu'ils le pouvaient, tout autant que ceux qui étaient dans des lieux bien plus complexes que ceux dans lesquels nous vivons, pour la plupart de ceux qui sont un peu privilégiés, je vais dire aujourd'hui, et j'aime dire le mot parce que moi je viens d'un milieu très très modeste, mais je me sens tout de même parvenu grâce à l'ascenseur social, et je pense à tous ceux qui sont dans leur petit lieu de vie, des espaces. Voilà, donc le temps et l'espace, ça a été ce qui m'a beaucoup marqué.
Alors est-ce que justement, est-ce que quelque chose a changé chez vous depuis ? Est-ce que vous vous sentez différent aujourd'hui ? Votre regard peut-être justement sur le temps et sur l'espace a-t-il changé ?
Alors, donc je suis comme toujours très dans cette acuité envers ceux dont je parlais, mais enfin pour moi c'était un temps davantage d'investissement et j'ai, je pense, approfondi ma réflexion sur un temps qui est un temps de désir, de transformation par rapport à la sidération dans laquelle nous étions tous tombés et surtout une volonté de contredire, oui, ce temps de pulsion, de temps de consommation. Il y a un mot que les latins utilisent, c'est le mot négocium, pour parler de tout ce qui est de l'ordre du marchand entre les gens, du commerce. Et il y a un autre mot qui, on enlève le petit préfixe, qui est l'osium. Et je pensais que ces journées étaient un temps d'osium, c'est-à-dire d'arrêt, qui n'était pas le négocium, mais le temps pour soi et le temps à réfléchir un petit peu à notre vie collective.
Alors justement, toute cette réflexion, et on va en parler avec vous, vous réunissez, en tout cas vous participez aujourd'hui au dernier jour des débats intitulés « Urgence des alliances » organisés par le Théâtre de la Ville et Télérama qui ont débuté la semaine dernière, je crois que ça a commencé vers le 15 juin, avec une diffusion en direct sur télérama.fr, théâtredelaville-paris.com, également institutfrançais.com et sur Facebook, je tiens à préciser, comme ça tout le monde peut y assister. C'est ouvert au public, installé dans les jardins du Théâtre de la Ville, espace Cardin, et avec des inscriptions obligatoires, mais aussi une distanciation sociale et des conditions sociales qui sont respectées. L'idée est de dire, un peu le ce que vous venez d'exprimer, Robin Renucci, plus rien ne sera comme avant, mais est-ce qu'il faut le craindre ou l'espérer ? C'est ça, est-ce qu'il faut s'inquiéter qu'on ne revienne pas, entre guillemets, à la normale, ou au contraire, est-ce qu'il est temps de changer des choses ?
Le poète Hölderlin, vous vous souvenez, il dit « Là où le péril croit aussi ce qui sauve ». Donc espérons que nous sommes dans une situation où nous allons nous sauver. Oui, je pense que il faut être en coalition absolue aujourd'hui. Voilà, je pense qu'il y a une nécessité de retrouver toutes les forces vives du monde de l'éducation, du monde des arts, de tous ceux qui travaillent à l'accroissement, disons, des capacités que peuvent chacun recevoir tout au long de leur vie, parce que il y a une perte, une passoire qui fuit de tous les côtés, et nous ne sommes pas ensemble. L'endroit du spectacle, c'est le lieu où l'on rassemble. Alors vous parlez en effet du Théâtre de la Ville, et son directeur Emmanuel de Marcimota, avec Télérama, organise ce moment de rencontre avec un peu de public qui vient progressivement. Oui. Mais désintimider ces lieux de public, c'est peut-être par là qu'il faut commencer, et ce dont on vient de se rendre compte, c'est l'importance sans doute du rassemblement dans ce moment où tout est éclaté, où tout a volé en éclats, on n'a pas pu se toucher, certes, dans nos vies intimes, mais dans ce qui fait que les uns et les autres en société peuvent se rencontrer et se rapprocher, alors qu'on a parlé pendant de longues années du lien social, de rapprochement, nous étions dans notre endroit cardinal complètement atteints. Donc ça, c'est ce que remet en chantier, dans des espaces de théâtre qui s'ouvrent en ce moment, ce désir de retrouver physiquement, non pas dans la distanciation, les uns et les autres. Alors ça passera par la rencontre, bien sûr.
Bon, alors justement, vous êtes avec autour de la table, entre guillemets, avec des psychologues, d'autres comédiens, le recteur de l'Académie de Paris également, des metteurs en scène, des directeurs de théâtre. Tout ça pour parler, pour échanger, pour voir éventuellement comment les choses peuvent avancer. Mais est-ce que il n'y aura pas aujourd'hui, et y compris ce matin et puis cet après-midi, ça reprend à 14h jusqu'à 15h15, est-ce qu'il n'y a pas un petit goût amer, notamment autour de la culture, du théâtre, des spectacles vivants, que ce soit la danse, la musique, et donc bien sûr le théâtre, un petit goût amer d'être un peu les derniers appelés à se déconfiner ?
Bien oui, ce sont les premiers qui ont été atteints. Moi, j'étais en représentation à Villeurbanne, au théâtre, au TNP, le 13 mars dernier. Nous avons arrêté en plein vol. Et aujourd'hui, alors que toute la France, ou presque toute la France, se déconfine, que les transports ne connaissent plus de mesures de distanciation physique ou très peu, l'aéronautique, comme vous le savez bien, l'automobile, qui bénéficie de plans de relance, tout cela, eh bien, le spectacle vivant, lui, il est le dernier du lot, pour le coup, le dernier de la charrette.
Comment l'expliquer ?
Le 6 mai, le président de la République a fait un discours où on sentait qu'il y avait une sorte d'élan autour de la question culturelle. Et le dernier discours, eh bien, le mot culture était absent.
Donc vous le vivez mal, j'ai bien compris, mais comment l'expliquer ? Et puis on a presque l'impression que maintenant, on pointe du doigt les spectacles ou les réunions culturelles comme étant une espèce de cluster. C'est-à-dire, on se dit, ça vient de là. Donc c'est pour ça qu'il faut que ce soit les derniers qui s'ouvrent. C'est très paradoxal de montrer la culture comme responsable du virus.
Mais bien sûr, alors les avions ne se sont pas posé la question. Tout le transport aéronautique ne s'est pas posé la question tant que ça lorsqu'on a mis des passagers les uns à côté des autres. Mais bon, disons que c'est sans doute cette crainte toujours. Moi, je crois que l'art est subversif, le spectacle est subversif de toute manière. Ce sont des moments où les gens ont beaucoup de choses à dire. Je pense qu'il y a un moment où, depuis les plateaux de création, vont naître des pensées fortes, des pensées politiques, des pensées qui vont être subversives, peut-être contre la fabrique du consentement et la manipulation par le pouvoir économique de tous ces citoyens qui ont été réduits au statut de consommateurs et qui est le fer de lance du monde dominé par une économie court-termiste et qui a servi au profit l'exploitation des ressources humaines. Et je crois qu'il y a un moment où du plateau va naître une véritable volonté de partage et de réflexion forte pour transformer notre société. On a eu le moment écologique très puissant, on a un moment qui tourne autour des questions raciales aujourd'hui qui est fondamental. La question de la parité aujourd'hui reste le premier des racismes entre les hommes et les femmes. Je crois que des plateaux de théâtre, par les auteurs qui sont si peu considérés, nous allons retrouver peut-être le sens de ce qu'est un citoyen, c'est-à-dire l'homme qui parle à l'homme et qui transforme par la capacité de penser l'esprit individuel et collectif.
Daniel Morin ?
Oui, Robert Onucci, là, je sais, c'est délicat, puisque la culture, c'est vrai, a été mise plutôt de côté, et qu'on a préféré privilégier les transports, comme le train ou comme l'avion, mais là, ça se décante. Là, on voit qu'il y a des autorisations, il y a des plans qui sont en train d'être mis en place. On est positif, là, ça va pouvoir se faire, les représentations en public.
Oui, les cinémas reprennent. Le cinéma étant une industrie de standardisation, on va voir tout de suite les films lundi prochain. Il faut vraiment s'en réjouir. Vous avez raison absolument. Le théâtre, lui, il se met en route un peu plus difficilement. Vous voyez, il faut la création, vous le savez, la création des spectacles, leur répétition. Heureusement, je dirais heureusement, je dirige un centre dramatique et nous avons pu, avec l'Association des Centres Dramatiques Nationaux, mettre en place pour le service public, qui est très atteint, et c'est pas à vous que je vais le rappeler, vous le savez tellement, qu'il fallait donc ne pas cesser au moment du confinement de rester en contact avec toutes nos équipes, y compris par les moyens techniques que j'évoquais de Zoom et de tous les systèmes, vous savez, d'Internet, pour nous réunir, pour travailler ensemble, pour réfléchir et pour même répéter. C'est-à-dire que nous avons pu, pour certains, faire ce qu'on appelle les italiennes, que vous connaissez, dire son texte à distance, mais être ensemble sur un écran, au fond, nous a permis beaucoup de choses. Mettre en chantier les répétitions, mais il y a beaucoup de théâtres qui ne peuvent pas le faire, parce qu'ils n'ont pas pu ouvrir, tout simplement, recevoir dans des salles un stade de répétition, où il fallait être justement dans la proximité physique. Donc moi, j'ai repris au Tréteau de France, depuis le début du déconfinement, et j'ai pu travailler pour ce que nous allons faire cet été, la rencontre avec des publics sur les îles de Loisirs, de Draveil, de Cergy-Pontoise, de Saint-Quentin-en-Yvelines, pour retrouver ces publics. Parce que ce qui est nécessaire, c'est ce sont des expériences de travail artistique avec les populations. Et c'est cela qu'il faut remettre en chantier aujourd'hui.
Guillermo, Guise, tu as une question à Robin Renucci ?
Bah oui, je me demandais, dans la mesure où effectivement les représentations vont reprendre, est-ce que vous préférez avoir un public compact qui a des masques ou un public un peu plus espacé sans masque ? Vous préférez jouer dans quelle configuration ?
Alors, moi j'ai prévu de jouer éventuellement, s'il le fallait, on ne sait pas ce que seront les questions sanitaires dans quelques jours, quelques semaines, avec des acteurs masqués. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait l'imaginer. Il suffit qu'il y ait un travail de costume et qu'on ait des acteurs qui aient un visage demi-masqué. Le corps prend encore plus d'importance et on est habitué dans nos sociétés de cinéma de privilégier le visage. Depuis Alice Guy, vous vous souvenez, Alice Guy qui avait inventé le gros plan chez Gaumont, et Gaumont disait pourquoi on les paye en entier puisqu'on n'utilise que leur visage. Donc aujourd'hui,
Robin, mais comment entendre des acteurs au théâtre avec des masques? C'est-à-dire que ça va assourdir totalement la voix aussi.
J'ai fait l'expérience, Nagui, l'expérience, et avec certains tissus tout à fait dans les règles sanitaires, on arrive à faire entendre. Alors, c'était sur des travaux que je fais justement pour ces bases de loisirs, et y compris en alexandrin. C'est-à-dire, l'alexandrin, il est magnifique parce que la rime permet de rendre intelligent celui qui l'écoute, puisqu'il sait que la prochaine phrase aura cette finale de consonance ou de voyelle qui va être la rime entendue par l'oreille du spectateur avant même qu'elle soit prononcée. Donc, travailler sur l'alexandrin, par exemple, ça marche très très fort. La structure du langage, la langue se remet en chantier, y compris sous un vélum, on va dire, un petit masque, c'est pas une muselière. Et par exemple, dans la pièce que je mets en scène, Britannicus entre autres, un des personnages dit « Ah, l'on s'efforce en vain de me fermer la bouche. Ah, l'on s'efforce en vain de me fermer la bouche. » Donc elle résonne très très fort, cette
phrase.
Si, on peut parler avec un masque, très très bien. Après, la question sur le public, moi je n'ai pas de problème avec un public qui est là de quelque manière que ce soit. Voilà. Qu'il soit espacé, qu'il soit masqué, qu'il soit distancié d'une manière ou d'une autre. L'important, c'est d'être ensemble. Ce qui pâtira, bien sûr, c'est le spectacle où il y a besoin du retour de la salle en masse, c'est-à-dire avec des jauges de 500, 800, 1000 places ou plus, où la vague, disons, d'intention qui est renvoyée depuis la salle est très importante pour l'artiste en scène, mais ça se pose surtout pour les seuls en scène, je dirais, pour des spectacles qui ont besoin du retour du public. On ne sait
Daniel
pas,
Morin.
Faut réinventer.
Robert Renucci, pourquoi ne pas profiter de la situation, entre guillemets, pour créer peut-être un spectacle interactif avec le public et les comédiens, mais masqué, et qui aurait pour thème justement cette crise du Covid-19 qui nous amène à beaucoup de changements et à beaucoup de réflexions?
On peut, tout à fait, mais je crois aussi que les gens ont besoin de poésie, ont besoin de partir ailleurs, ont besoin d'invention. Vous voyez,
de se changer d'idée aussi et de ne plus penser au virus et au Covid.
Mais oui. Ouais. Le philosophe Krishnamurti, je crois qu'il s'appelle Jiddu de son prénom, Krishnamurti chez les Indiens, dit une chose très juste, ce n'est pas un signe de bonne santé que de s'adapter à une société profondément malade. Donc on peut tout faire tourner autour du coronavirus, de la Covid-19, mais au fond, je pense qu'il faut aujourd'hui rêver. Place aux poètes, place aux auteurs, place à ceux qui nous augmentent, place à ceux qui nous font partir dans des imaginaires. C'est peut-être l'imaginaire qui a été le plus touché dans cet état du perroquet, le psittacisme. Là, tout le monde était en train de dire les mêmes choses à la télévision, un peu moins à la radio. Moi, j'ai beaucoup écouté la radio, je vous ai beaucoup écouté, parce que l'oreille construit des choses.
C'est gentil.
Ce sont des mots qui donnent à voir, et on a été surchargés par la Covid-19. Donc là, évasion, invention, imaginaire, bataille de l'imaginaire.
Fanny Ruet.
Mais est-ce que... Enfin, moi, je suis à fond sur le fait qu'on ne doit plus spécifiquement parler du Covid une fois que c'est derrière nous et qu'on a besoin d'autre chose, mais est-ce que vous avez réussi, pendant le confinement, à... justement arriver à créer, à imaginer autre chose, parce que c'était tellement dans chaque aspect de nos vies que c'était très difficile de s'en détacher et de repenser à la vraie vie, entre guillemets.
C'était un gros travail de décidération, comme on le disait, donc de ce désir qui nous a mû. Moi, j'ai été porté vraiment dans cette période, les journées étaient trop courtes, et aussi parce que, comme je le disais en préambule, le monde a tellement de complications antécédentes à cette crise, ou corrélées, disons, sur les questions écologiques, sur les questions raciales dont on parlait, ou de parité, enfin, tous ces sujets, ils ne dépendent pas de la Covid-19. Donc il ne faudrait pas qu'elle masque comme l'arbre qui cache la forêt très ponctuellement, et que toute notre actualité, toutes nos pensées soient convergentes vers cela, mais plutôt vers l'émancipation en général, vers comment vivre ensemble beaucoup mieux, et là, il y a beaucoup à dire sur les inégalités qui perdurent dans nos sociétés.
Alors, le festival gratuit et Île-de-France Fête le Théâtre est maintenu, vous me le confirmez, ça se déroulera du 18 juillet au 30 août, d'accord ?
Oui,
sur les îles de loisirs du Port aux Cerises, Cergy-Pontoise et de Saint-Quentin-en-Yvelines. Vous y mettrez donc en scène Britannicus de Racine, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Vous êtes également président de l'association de l'ARIA. Également des directeurs des Tréteaux de France, membres du Haut Conseil d'éducation artistique et culturelle. Tout ça, ce sont des titres qui vous confèrent un rôle justement d'acteur, mais au sens, il faut faire bouger les choses dans le monde du spectacle. Quelle est la mission que vous vous êtes donnée?
Écoutez, je vous remercie de parler de l'ARIA. C'est une association que nous avons fondée en Corse, dans la seule région de France qui n'a pas été touchée par les politiques nationales. La seule région où il n'y a pas de centre dramatique, justement, ou de scène nationale, à part la Picardie, mais qui est très très bien dotée. Donc, nous avons inventé en Corse un lieu pour que le monde des enseignants, qui m'a tout donné. Je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je viens d'un milieu très modeste, j'ai vécu dans une gendarmerie dans ma toute petite enfance, au-dessus de la cellule de dégrisement, donc j'en ai entendu et des chansons de clochard, et des coups de policiers, et des coups en général.
Daniel,
donc,
déjà
j'ai vécu dans l'angoisse de cette enfance en gendarmerie, et c'est grâce à l'école, déjà à la toute petite école, puis ensuite à la primaire, au collège, au lycée, que j'ai découvert par des enseignants la puissance qu'on pouvait avoir à donner, à agir à quelqu'un, jeune bêta que je devais être en province, pour pouvoir me construire et puis devenir ensuite quelqu'un qui se soucie d'aider les autres à augmenter leurs capacités. Donc réunir les enseignants aujourd'hui, c'est essentiel. Se rejoindre au soignants. La culture, c'est un endroit du soin qui n'est pas que biologique, il est mental, bien sûr, mais toute cette évasion dont je parlais par l'imaginaire, la bataille de l'imaginaire qu'il faut remporter, c'est une question de santé collective très importante. Donc nous réunir, que le service public soit reconstitué, donc j'y travaille au quotidien, soit dans les centres dramatiques nationaux, soit dans l'association en Corse, pour que des enseignants, des éducateurs, des animateurs, des artistes, des participants de pays étrangers se réunissent. Pour cela, il faut du temps, de l'espace. Nous avons la chance en Corse d'avoir construit un théâtre pour cela. Et cet été encore, il y aura tout l'été, non pas des créations théâtrales issues de la présence longue de ces participants, mais avec le public qui viendra réfléchir, une sorte d'université populaire, on va dire.
Oui, c'est ça, avec des ateliers de pratique théâtrale, avec également des réunions, vous appelez ça un cirque parents-enfants, j'adore l'idée, participer avec vos enfants à un atelier de cirque, ou comment comprendre, se tenir sur la boule ronde d'un cirque, au milieu de tout le monde, face aux gens, même à 4 ans, on peut commencer à s'y atteler, puis moi je fais un clin d'œil aussi à l'Académie Fratellini à Paris, qui enseigne aussi l'art circassien à tous ses enfants. Balade à la découverte du patrimoine, des poèmes en sentier, c'est-à-dire des excursions poétiques et découvrir des sentiers de la vallée, des spectacles évidemment tous les samedis avec des lectures. Je n'ai pas précisé que l'ARIA, la signification de l'ARIA, vous pouvez le faire puisque
c'est
vous en êtes le président.
C'est l'association des rencontres internationales artistiques. Donc il y aura un peu moins d'international cette année pour les raisons que vous comprenez des voyages, mais il y aura une grande présence du public pour découvrir autrement cet endroit culturel qui n'est pas un endroit de consommation mais d'ouverture, d'inventivité.
Du 13 juillet au 8 août, et ça se passe où exactement?
Donc dans le Giunsani, dans un petit canton de la Haute-Corse, au-dessus de l'île Rousse, là où est enterré Guy Bedos et beaucoup d'amis qui sont là, puisque c'est un lieu où les gens aiment se retrouver. Michel Rocard n'est pas loin également, qui a donné beaucoup pour la question de la culture et des échanges politiques entre la Corse et le continent.
Parlons justement de la musique aussi, qui a une importance dans votre vie, notamment quand, en 73, on vous demandait de trouver la musique qui allait avec votre découverte du théâtre. Vous nous avez dit.
On se quête, traqué à bout de souffle marchant, pétrifié dans nos manteaux d'hiver, refoulé aux frontières du mensonge des nations qui crèvent.
Alors, est-ce que c'est pour le clin d'œil au titre Laissons entrer le soleil, ce que pourrait apporter le théâtre dans votre vie, ou parce que vraiment cette musique vous évoque quelque chose?
Oui, le titre est métaphorique, bien sûr. Oui, il y a eu un besoin de lumière aujourd'hui par rapport à ces murs qui nous ont bloqués pour beaucoup. Retrouver la lumière, le soleil et l'art. Mais c'est aussi parce que j'étais jeune homme à Auxerre, dans Lyon. Je m'ennuyais énormément. Heureusement, il y avait les enseignants. Heureusement, il y avait le club poésie et chansons. Heureusement, il y avait la MJC, c'est-à-dire les milieux d'éducation populaire qui ont eu ce désir de me hisser, de me porter, de me rehausser. Et je suis allé au théâtre municipal et j'ai croisé ce jeune homme, Julien Clerc, j'étais encore tout jeune adolescent, et ouais. J'ai senti dans sa personne et surtout dans ce qu'il chantait sur scène à ce moment-là, un grand désir. Ça m'a fait venir à Paris, j'ai vu le spectacle à Paris, j'ai vu également Godspell, que j'aimais beaucoup, et j'ai commencé à fréquenter le théâtre de la Porte Saint-Martin quand j'avais 17 ans, en venant en car et en emballant les filles, en rentrant le soir, on avait 1h30, c'était bien.
Est-ce que c'est vrai que vous êtes venu au théâtre parce que votre maman faisait des costumes?
Oui, exactement. Mon père était gendarme, ma maman faisait des petites robes pour les voisines, et puis le théâtre municipal d'Auxerre a envoyé quelqu'un qui était un CTP, un conseiller technique et pédagogique du ministère de la Jeunesse, pour venir faire réparer des costumes à ma mère. C'est ce qui m'a emmené au théâtre municipal. C'est dans la même période que j'ai connu
c'est
Julien
Clerc.
Et le théâtre est venu chez moi. C'est-à-dire, ce que je vais faire cette année, comme tous les ans, aller sur les îles de loisirs pour rencontrer ces jeunes gens de France de toutes les origines, à Draveil ou à Cergy Pontoise, c'est ce qui m'est arrivé à moi. C'est-à-dire que les comédiens sont rentrés dans ma maison. J'ai senti leur patchouli, ils avaient des sabots, on était dans 70, 72 par là, ils avaient des gilets avec des petits miroirs brodés, et c'était une entrée d'air, entrer le soleil, je les ai vus rentrer comme ça, oui.
C'était dans la gendarmerie.
Oui.
Non, mon père avait quitté la gendarmerie. Mon père était à la retraite un peu tôt. Voilà, comme gendarme qui était allé en Corse. Donc il a eu sa retraite plus tôt. Et là, nous habitions au Serre à ce moment-là.
Et vous dites avoir été élevé dans les cimetières. Racontez-nous un peu ce paradoxe.
Ah, oui, alors je veux bien, si vous voulez.
Pour quelqu'un d'aussi vivant.
Oui, c'est simplement que, cela dit, la période dans laquelle on était, où la mort était très présente, ça nous a ramené beaucoup à cette question de la vie et de la mort. Alors, quand j'étais enfant, ma mère était nostalgique à mourir, c'est le cas de le dire. Elle venait de Corse, où ils avaient vécu jusqu'à 29 ans. Et ensuite, mon frère est né dans un petit village de Corse, et mon père est revenu pour soigner sa mère. Lui, mon père, il est continental, bourguignon, c'est pour ça que j'ai vécu en Bourgogne. Et à ce moment-là, eh bien, nous avons eu la difficulté de vie pour ma mère qui était neurasthénique, on va dire, et qui nous emmenait les cimetières le dimanche pour pleurer tranquille. C'est-à-dire, quand elle pleurait sur les tombes, personne ne lui demandait rien, alors qu'à la gendarmerie, on lui demandait pourquoi elle pleurait. Elle n'avait pas le droit.
Ah, c'est joli.
J'ai joué dans toute mon enfance avec des petites fleurs en plastique, des saloperies d'église et de...
De l'importance du décor. Vous parlez de vos deux familles, si je le souligne, cette notion de deux familles, qu'elles soient la Corse et le... Voilà, la Corse et le continent, c'est parce que vous avez réuni ces deux familles dans le pseudo que vous avez choisi pour être sur scène.
Mon nom, c'est-à-dire mes racines, l'importance des racines pour moi est très, très fondamentale. Donc, je m'appelle Daniel Robin Renucci. Robin étant le nom de famille bourguignon, donc de mon père, et Renucci, le nom de ma mère. Et quand je suis entré au conservatoire, il y avait également Muriel Robin qui était là, et puis on s'est dit, bon bah toi tu t'appelles Daniel Robin Renucci, allez, on en enlève un, et ça fait les deux lettres dont vous avez parlé en préambule tout à l'heure dans l'émission, que vous avez nommé comme étant joyeuse de RR, et avec le plaisir que ça a également, quoi. Mais ça sonne bien.
En 86, vous écoutiez... Et 86, c'est l'année de la consécration, entre guillemets, ou en tout cas de l'accueil du public avec Escalier. C'est d'ailleurs, est-ce que vous aimez que l'on dise année de la consécration, ou vous trouvez que ça néglige un peu trop tout le travail qu'il y a pu y avoir avant ou après Escalier C?
Alors c'est sincère de ma part, j'ai pas du tout l'esprit vedettariat. J'ai même été élevé dans mes premières années, comme je parlais d'éducation populaire, sur autre chose que ce rapport au vedettariat et à une plus grande égalité entre nous, et être connu pour quelque chose c'est bien, mais pas pour ce que l'on est. Enfin voilà, ça me semble un peu dérisoire. Donc la consécration,
Il vaut mieux être reconnu que connu.
Ben oui, reconnu, ça veut dire que la place est aux autres. C'est comme pour l'autorité, vous voyez. L'autorité, elle se reconnaît. On dit de quelqu'un qu'il a de l'autorité parce qu'on lui trouve quelque chose qui nous augmente, qui nous fait grandir. Or, on confond souvent le pouvoir et l'autorité. Et le vedettariat, tout le système, disons, capitaliste en général, est basé sur des rapports de domination. Et je ne fais pas partie du monde des vedettes, ça ne m'intéresse pas.
Et pourtant,
mais j'aimais bien entendre Peter Kingsbury là, c'était sympa d'entendre Peter Kingsbury.
Ah ouais.
Et puis je crois elle s'appelait Anna Lacasio, je crois.
On était tous amoureux d'elle quand même, faut le reconnaître, Robin, vous aussi.
Oui,
dites-le, avouez-le.
Absolument, absolument.
De toute façon, quand t'habites à Auxerre, t'es amoureux de tout le monde. Hein.
T'es obligé, c'est ça qu'il veut dire.
T'es obligé, t'as pas le choix.
Ouais, mais moi j'avais la MJC, tu vois, et puis le club Poésie et Chanson. Et enfin, la ville est une jolie ville, mais c'est vrai que ça peut être un peu sclérosé. Ça bouge, ça a bougé. Il y avait à ce moment-là un centre culturel extrêmement actif dont j'ai bénéficié.
La notoriété aussi, elle a été, et la popularité a été grandissante en 2009. Vous avez choisi La Foule sentimentale d'Alain Souchon. Et la foule s'est précipitée à regarder le village français. Là, la télévision a un impact, j'imagine, encore plus fort sur la notoriété d'un acteur.
Moi, j'ai toujours voulu faire de la télévision parce que mes parents, comme ils étaient de milieu très modeste et qui n'allaient pas au théâtre, j'étais à Paris, j'étais au conservatoire, ils ne montaient pas à Paris, comme on dit. Le seul moyen qu'il y avait, c'était d'apparaître dans des films de télévision. Et comme je ne voulais pas faire n'importe quoi, je faisais des unitaires, on appelait comme ça les unitaires, et je tentais voilà progressivement de trouver dans ce service public tout ce qu'il y a d'extraordinaire pour que le grand public ait aussi le meilleur dans les fictions. Donc j'ai tenté et j'ai eu la chance de rencontrer des gens formidables dans des films de télévision. Et le village français, quand il est arrivé, nous ne savions pas que ça allait être tous ces épisodes. Je crois qu'on a tourné 72. Hein. Ouais. Je savais que cette guerre, deuxième guerre mondiale, qui n'était pas éclaircie encore et qui devait être ni blanche ni noire, toute résistante ou toute collaborationniste, nécessitait la zone grise que Azéma et toute l'équipe Krivine, tout le monde a mis en place pour que le public bénéficie ici aussi de cette éducation populaire à la télévision.
Je rappelle donc que vous participez au dernier jour des débats intitulé « L'urgence des alliances » cet après-midi à partir de 14h sur telerama.fr, théâtre de la ville-paris.com ou institutfrançais.com. Vous serez présent lors de ce dernier débat. Et puis, on rappelle aussi qu'il y a la représentation de Britannicus dans le cadre de Île-de-France qui fête le théâtre. Ça sera du 18 juillet au 30 août. Sauf que le Britannicus ne va pas se jouer pendant toute cette période. C'est une date précise ou c'est...
Il y a beaucoup de dates, et mais il y a surtout d'accord. d'autres spectacles. Vous pouvez venir, le spectateur peut venir en famille, c'est gratuit. Encore une fois, c'est pour des populations qui ne sont jamais allées au théâtre pour la plupart d'entre elles. Et il y a des spectacles jeunes publics, des spectacles en famille, et l'on vient, il faut regarder ce programme que vous trouvez sur Internet. C'est gratuit pendant tout l'été. L'Île-de-France fête le théâtre grâce à la région Île-de-France et les Tréteaux de France et des acteurs, d'ensemble de toutes les équipes sont sur place. Par un village de théâtre avec des chapiteaux, des endroits de restauration, encore une fois gratuits.
Et l'association des rencontres internationales artistiques, donc ARIA, qui se réinvente cet été du 13 juillet au 8 août en Corse, avec ses ateliers, que ce soit Acteurs en herbe ou encore les balades à la découverte du patrimoine ou les poèmes en sentier. Merci mille fois Robin Renucci d'avoir trouvé le temps de venir avec nous donner à nouveau le goût, mais on l'a jamais perdu, hein, le goût de la culture et l'envie en tout cas de se retrouver tous ensemble dans une salle et de partager des émotions. Merci mille fois Robin, portez-vous bien.
Merci à vous, merci de nous avoir rassemblés un moment. Et rassemblons-nous encore longtemps et beaucoup.
Au revoir. Bonne journée.
Au revoir. France Inter. Nagui. Au revoir. La bande originale.
Tiens, j'aurais pu mettre aussi ce groupe dans les doubles initiales puisqu'il y a un C et un C. Creedence Clearwater. Down Around the Corner. Et à suivre Tanguy Pastureau dans la bande originale. corner, les Creedence Clearwater Revival dans la bande originale. Voici venir Tanguy Pastureau. Bonjour Tanguy.
Bonjour.
2020 pour vous, enfin pas pour vous, c'est une année pourrie.
Oui, elle est atroce cette année. Un jour, les historiens dans leur jargon l'appelleront « belle année de merde ». Hein, on sort à peine du Covid qu'un nouveau danger est là. Il est petit, il est vicieux, ce n'est pas Éric Zemmour. Mais la tique géante. Pour les distinguer, Éric Zemmour, c'est celui qui ne vous pompe pas le sang, sauf dans une soirée à thème et si vous prouvez que vos ancêtres sont français depuis 1410. Jusqu'ici en France, on connaissait la tique classique. Hein, cet insecte de bon goût puisqu'il se colle sur les jambes des mecs en short pour les punir d'exhiber leurs membres poilus. Hein, vous êtes en forêt, faites des choses qu'on fait en forêt, comme enterrer un jogger ou faire l'amour à un buisson pour ceux qui travaillent chez CTLM et n'arrivent pas à sortir de leur job. Quand soudain, paf, la tique vous pique. Mais pire, elle reste en vous. Et vous devez lui couper la tête pour vous en débarrasser. Le type qui a eu l'idée de la Révolution française à la base cherchait juste une idée de start-up, mais il s'est fait piquer par une tique et il s'est dit, bébé, là tu tiens un concept, allez chiche, appelle Louis XVI. Ça, c'est la tique française. Bon, qui est à notre image, inactive, collante, mais pas méchante. Seulement midi libre. Le journal de ceux qui, aussi bien au déjeuner, peuvent partir sur une tartine Nutella rognon. Sonne l'alarme. La tique géante déboule dans le sud de la France. Habitants des Pyrénées-Orientales, Hérault, Gard, Ardèche et Var, n'allez pas en forêt. La tique est là. Hostile. À côté un chef de guerre pachtoun, c'est la compagnie créole à la bar mitzvah de ton fils. La tique aime la chaleur. Enfermez-vous chez Picard dans le congélo à pizza. Si un client l'ouvre, dites « Je suis Madame de Fontenay ». Il se dira que la date de péremption est atteinte et en prendra une au chorizo. Il y a dans le sud une invasion de tiques géantes. Elles font 2 cm, ce qui est peu en distance sociale avec un vieil oncle qui sent de la bouche, mais est énorme en taille de tique. Ah, une fois accrochée à sa proie, attention, elle peut se nourrir pendant 30 jours, comme nous lors des croisières Costa. Et quand vous les découpez à la scie sauteuse, hein, vous avez la tête de la tique dans la main, elle arrive encore à dire « Fils de chien, tu crois que c'est fini ? Mais il y a tout mon gang qui arrive pour te latter !» comme on dit chez Starbucks. Ah oui, la tique géante est tellement développée qu'elle fait des vannes. Hein, dès qu'on rouvre le Palais des Sports, elle est en première partie de Kev Adams. Mais le gros souci est que la tique géante, Big Tick en anglais, peut transmettre le virus de la fièvre de Crimée-Congo, mortel pour l'homme. Hein, comme la discographie Christine and the Queens. Moi, je devais partir dans le sud, j'ai renoncé. Hein, en août, je me taille en Islande. Je préfère me retrouver face à 10 ours chantant du Björk, tellement bigleux qu'ils me prennent pour un phoque, que de croiser une seule tique géante. Alors, attention, précision, la tique géante, avant de s'attaquer à l'homme, vient se fixer sur le cheval. Et c'est véridique, autour de son anus. Mais qui sommes-nous pour juger cette tique, hein ? Alors, la solution pour s'en sortir est donc d'avoir un cheval, hein, dont on se sert comme bouclier. Contre les postillons, il y a le masque chirurgical. Contre la tique géante, le cheval. Hein, c'est juste un peu plus lourd à porter et ça tire sur les élastiques qu'on a derrière les oreilles. Bref, on est foutu, Nagui, entre le moustique tigre, la tique géante, le touriste allemand avec la marque de bronzage du slip, le sud est devenu un enfer. Estrosi aux prochaines élections, je pense qu'il se présente à Valenciennes. Après le Covid, voilà la fièvre de Crimée-Congo. Ensuite, on aura la syphilis du Ghana, la peste bleue du Liechtenstein et ce sera la fin, sauf pour ceux qui ont un cheval. Les survivants de demain sont les salariés de la chaîne Equidia d'aujourd'hui. Prenez soin de vous.
Merci, Tanguy Pastureau. Merci. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Déjà désolé pour tous ceux dont a parlé Romain Renucci qui ont vécu le confinement dans des lieux exigus et parfois insalubres. Du coup, j'ai une pensée pour Guillermo qui depuis 3 mois vit dans un lit sans avoir changé une seule fois les draps. Je pense aussi à toutes celles qui sont passées par ce lit et qui sont mortes empoisonnées par les effluves dégueulasses émanant de son corps putride. Désolé pour tous les membres de la MJC et du club Poésie d'Auxerre qui ont été cités ce matin par Romain Renucci. Ils sont furieux, ils ont peur que ça attire des gens et que la joie de vivre arrive dans leur ville, symbole de déprime. Non, si vous voulez vous marrer les gars, n'allez pas au cerf. Faites-vous un délire d'enfant joyeux comme Robert Renucci. Allez vous éclater dans un cimetière. Désolé enfin pour Guillermo, Fanny et tous les Belges du monde qui décidément ne gagneront jamais aucun blind test. C'est pas qu'ils sont incultes, ils sont juste lents et oui, Nagui peut-être un peu idiot aussi. Allez les Belges, on y croit, on y croit. Un jour on vous laissera gagner, on n'est pas tous des Oumtiti.
Merci Daniel Morin, merci Fanny Ruet, merci Guillermo, merci Tanguy Pastureau, merci à toutes et Albert également. On se retrouve lundi avec Emmanuel Devos qui sera notre invité. Passez une très bonne journée et un bon week-end.
Bon week-end.